si on était mieux pris en charge dès le début, des premiers signes en fait, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner sur beaucoup de points.
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses, gèrent dans un courant d'air.
Il n'y a pas la folie d'un côté et l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une somme de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap, groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 5.
Elle est bipolaire, il est bipolaire. T'es quoi, toi ?
Bipolaire.
Tous bipolaires.
Vivant, vivante, triste à en crever, heureuse à tout faire exploser. Poinçonnée au DSM-5, bipolaire.
Bipolaire.
Toi, moi, bipolaire. Festive.
Passionnée.
Mélancolique.
Sombre.
Enthousiaste.
Désespérée.
Créative.
Fantaisiste.
Stable.
Mesurée.
Vive.
Tempérée.
Hypersomnie, collée au lit. Insomnie sur ressort. Diagnostiquer quand on ne sait plus quoi dire. Réduire, simplifier. Faut que ça entre dans les cases. Bipolaire de type 1.
Bipolaire de type 2.
Bipolaire de type 3.
Autrefois maniaco-dépressif. Pathologiser une âme en peine. Faire de la souffrance une maladie. La maladie mentale. La santé mentale. Une anomalie à traiter. Le diagnostic posé. L'affaire est réglée, c'est l'amorce du rétablissement. Des traitements adaptés et tout entre dans l'ordre. Pour qui ? Qui sort de sa souffrance après qu'un diagnostic soit posé ? C'est le discours qu'on rabâche dans les cabinets de psy, les HP, les CMP, les brochures préventives sur les troubles psychiques. Non. C'est plus nuancé, plus aléatoire, plus humain, plus complexe. Rien de figé. Rien de déterminé. Des possibles et du tragique. Mon point de vue, un point de vue, et celui de Sacha, Emmanuel et Chloé. On n'est pas toujours pris en charge en psychiatrie dès le début, malheureusement. Moi, ça a été mon cas. J'ai été, le mot accompagné, j'ai même pas envie de l'utiliser parce que c'est pas le cas, mais j'ai été suivie par un médecin traitant pendant des années qui fait taire mes symptômes et caché les symptômes de ma maladie à grands coups de médicaments sans chercher plus loin véritablement ce que j'avais et trouver des médicaments adaptés et un suivi adapté à ma maladie, en l'occurrence bipolaire.
Les premiers troubles vraiment très forts, les premiers symptômes, j'ai 16 ans et je fais une première dépression très forte. À ce moment-là, je ne sais pas du tout que c'est une dépression, évidemment. Pour le coup, il y avait vraiment des signes dingues. Quand j'étais au lycée, j'allais plus en cours, je rendais plus rien, je faisais plus rien. Et sur mes bulletins, je me suis souvenu que c'était voilà, absente, nanana, ne rend pas ces trucs. Enfin, c'était un peu accusateur. Et qu'à aucun moment, il y a eu un éveil. C'était des petites classes en plus de se dire ah, c'est bizarre. Et en termes de psychiatrie, non, il n'y avait rien. Il y avait une infirmière scolaire, mais moi, je ne savais même pas que ça existait. Ce n'était pas du tout pris en compte, comme peut-être aujourd'hui, on en parle un peu plus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important que dans les lycées, on forme les profs. Le village d'où je viens, on ne se plaint pas, on ne parle pas. Et il y a un médecin. Et surtout, la figure du médecin, elle est très autoritaire. C'est le sachant, c'est celui qui a tout le savoir. Du coup, ils sont très soumis à cette autorité. C'est vraiment une autorité. Faire la démarche d'appeler un psy quand on ne va pas bien, ce n'est pas aussi simple. À certains endroits, il y a un peu une violence symbolique, invisible. Quand toi, tu es patient et que tu débarques et que tu es déjà en fragilité, je pense qu'il y a une responsabilité des soignants qui sont psychiatres et qui sont responsables de leur savoir et responsables de prendre en compte le patient ou la patiente et de faire vraiment gaffe à qui tu es en face de toi. Moi, j'ai trouvé ça très, très dur d'en parler, de communiquer là-dessus. Et puis, quand on va mal, c'est difficile de demander de l'aide. Parfois, quand ça arrive, c'est compliqué. On n'est tellement pas habitué aussi à gérer ça. Même quand toi, tu reçois ça, quand quelqu'un qui va pas bien, tu sais pas forcément quoi faire.
Thank you.
je vivais une suite que je comprenais pas, mais de moments d'exaltation, de fête, mais j'appelais ça la fête, mais intérieurement, je voyais bien que ça ne ressemblait plus à la fête. C'était, il n'y avait pas de fin, ça durait des semaines entières. Je tombais de fatigue et puis je repartais. Et puis, plusieurs grosses dépressions. Les 3-4 premières, on m'a juste soigné pour des dépressions. Et on ne me soignait pas vraiment, d'ailleurs. Je n'étais pas diagnostiqué, il n'y avait pas de raison d'être hospitalisé. En plus, j'ai beau aller dans les excès, ça reste socialement acceptable. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de bouffées délirantes, je n'ai pas fait de choses si extrêmes que quelqu'un, voir la police, vient vous voir et dit « Personne ne sait que je dors jamais. » Sauf moi. Alors évidemment, j'étais l'homme ivre, mais mon cerveau, il était comme conscient quelque part de quelque chose, que je n'allais pas aux mêmes endroits tous les soirs. Pas forcément. Donc, on ne savait pas l'enchaînement qui se passait dans ma vie. J'étais le seul témoin. En plus, quand ça s'est déclenché, je vivais à l'étranger, à Londres, loin d'une toute famille, loin de mes amis. Pas de témoin. Et puis, j'ai eu une grosse hospitalisation à 28 ans, suite à un accident. Un accident qui, aujourd'hui, je le sais, est une conséquence directe des troubles. Je suis tombé sur les rails du métro à Paris. J'ai donc été électrocuté. Je ne cherchais pas à me suicider. J'étais ivre. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. On se sent tout puissant. On n'a peur de rien. On se rapproche du bord. On n'a pas peur du bord. De toute façon, ce n'est pas très haut. Et je tombe. Et l'électricité entre. Et elle va ressortir par mon crâne. Et je ferai suite à ça quasiment 1 an et demi d'hôpital.
J'utilisais le monde de la fête en même temps pour essayer de me persuader que j'étais comme les autres et que j'étais normale. Et c'est dans ces moments-là qu'avec l'alcool, différentes drogues, la sexualité à risque, se mettre en danger comme ça, hein, je me suis beaucoup perdue dans ce monde-là, quoi. Ce temps d'errance-là, je dirais que j'étais dans le flou, quoi. C'est ça le mot, moi, qui me... Dans le brouillard, comme j'avais pas de nom de maladie, pour moi, c'était la folie pure et dure. Parce que c'est vrai que dans certaines de mes crises, c'était un peu rock'n'roll, quoi, quand même. Et c'est après que j'ai vu une psychothérapeute. Et là, c'est pas du tout adapté pour la maladie bipolaire, en fait. On est sur des... La psychiatrie, c'est une formation médicale, quand même. Il y a quelque chose que... Je dénigre pas les psychothérapeutes, mais c'est pour d'autres problèmes, d'autres soucis, et pas pour la santé mentale, pour moi. Donc j'ai eu cette personne, là, c'était le moment où je faisais le plus de crises, mais parce que c'était pas adapté.
Et la première personne qui m'adresse vers un psychiatre, j'ai déjà 20 ans, et je suis à Nantes. C'était assez étrange comme moment. Moi, je sais à peine ce que c'est qu'un psychiatre, je connais absolument rien à tout ça. Je me renseigne un peu, mais vraiment, c'est très très inconnu pour moi. À ce moment-là, je peux quand même signaler que je suis en fac de lettres, j'ai quand même eu la possibilité d'aller à la fac. Je pense que l'entretien dure 10 minutes. Enfin, c'est vraiment hyper rapide. Je lui dis un tout petit peu des symptômes. Là, je dirais plutôt des hauts, des bas, très forts. Je n'ai pas le souvenir de vous souffrir de troubles psy. Peut-être qu'il a dit ça. Moi, j'ai vraiment le truc, vous êtes bipolaire. Et là, il me file une brochure des laboratoires Biolance, qui est pas mal foutue, hein, mais je tiens à préciser que c'est quand même les laboratoires Biolance. Et il me dit, voilà, vous êtes bipolaire, je vous file le numéro d'un psychiatre et voilà, bonne chance.
Ce qui est très particulier, c'est que, évidemment, un traumatisme comme ça, qui est arrivé dans ma chambre d'hôpital, une psychiatre. Et donc, elle m'a accompagné. Ma main est paralysée, ma main gauche. Je suis allé la voir pendant 2 ans ensuite dans son cabinet privé. Donc, on pourrait dire qu'elle m'a suivi 3 ans. Elle ne m'a jamais diagnostiqué. En revanche, elle a bien fait son boulot parce que, franchement, à un certain niveau, j'ai totalement supporté ce choc quelque part dans ma vie et mon handicap. Cette médecin a fait ce qu'elle a vu. Par contre, elle ne s'est pas tellement intéressée à ce qui se passait dans ma vie. Elle m'a même jamais interrogé sur ce qui s'était passé ce jour-là. Parce que aujourd'hui, quand je vous décris, pas dormi depuis 2 jours, alcoolisé. Si on m'avait fait parler sur mon passé, vu qu'il y avait eu des dépressions, c'est quand même beaucoup d'indices. Je ne suis pas psychiatre, hein, je suis patient, mais je dirais peut-être, ouais, ça ressemble à une bipolarité de type 1, maniaco-dépressif, hein, peut-être. Du coup, on interroge le patient et on va plus loin. Non, il aura fallu attendre 8 ans de plus.
Il y a un psychiatre à ce moment-là qui m'a suivi, mais qui était plus dans... il cherchait à comprendre les raisons familiales. Pour lui, c'était ça. Il y avait un problème dans ma famille qui faisait que je faisais des crises. J'ai fini par arrêter de le voir au bout de quelques mois, parce que moi, je n'avançais pas. Ça ne m'aidait pas dans ma maladie. Après, j'ai eu 3 grandes hospitalisations. Donc la première à Blain, j'ai eu une hospitalisation en addictologie à Saint-Jacques, mais en addicto, donc avec aucune prise en compte de la santé mentale à côté. Donc ça a été un échec, en fait. Et la troisième qui a été à la Clinique du Parc à Nantes, qui est un super établissement.
La preuve qu'il y avait autre chose, c'est que je sors de tous ces temps d'hôpitaux. Il y a eu 17 opérations. 6 mois après, mais je recommençais comme en 40. Donc ça ne m'avait rien appris. Mais pourquoi ? Parce que c'était au-delà de moi. C'était pas juste, oui, d'accord, je pense que j'étais bien un fêtard, mais pas que. Il y avait aussi ces troubles qui m'emmenaient.
C'est pour dire aussi la solitude, et quand on débarque complètement et qu'en plus on est en souffrance et qu'on est vulnérable, et selon la culture qu'on a, tout ça, ben, on fait un peu comme on peut. Je me souviens que c'est un peu une caricature parce que il est psychiatre et psychanalyste, mais c'est un grand bureau avec plein de livres. Il est derrière son immense bureau, mais je pense que c'est aussi mes représentations à moi aujourd'hui. La secrétaire, c'est sa femme, et le magazine qu'il y a dans la salle d'attente, c'est le Figaro Madame. Voilà. J'ai vraiment ce souvenir juste de relation ordonnance carte bleue, et qu'il n'y a aucune relation qui se passe en fait. Si on me dit, des grands médecins me disent vous avez ça, j'y crois et je prends des médicaments. Si on me dit on fait une ordonnance, je pense qu'à ce moment-là on aurait pu filer n'importe quoi, je les aurais pris. Donc moi je prends les traitements, ça va être une grosse défense pendant plusieurs mois. Vraiment, je suis un peu une espèce encore plus l'ombre de moi-même, un fantôme. Je perds mes cheveux, enfin, c'est des trucs, je saigne du nez tout le temps, nanana. Et surtout, en fait, moi, j'arrête le suivi parce que ça se passe pas bien. Mais après, il faut aussi dire que moi, mes premiers symptômes, c'est une dépression et que je deviens mutique suite à des éléments déclencheurs. Donc, c'est aussi ça. Moi, j'arrive là-dedans à un moment à avoir une difficulté à communiquer, à parler, quoi. Mais justement, je pense qu'il y avait vraiment besoin d'un travail de confiance qui ne s'est pas fait avec cette personne. Donc du coup, j'ai vraiment tout quitté. Je peux vivre des périodes d'effondrement assez intenses. Ça a un impact très fort sur ma vie sociale, professionnelle, amoureuse. Et qu'en même temps, j'ai plus vraiment de suivi et que je ne sais pas trop ce qui se passe.
Il y a eu une grosse phase en 2012 qui m'a amenée, j'ai fait une intoxication médicamenteuse volontaire, donc ce qu'on appelle une IMV, tentative de suicide, qui m'a plongée 5 jours dans le coma. Moi, un jour, je me suis dit, il faut que j'aille voir un addictologue, parce que c'est souvent ces conduites addictives qui m'ont mise très en danger. Et c'est enfin cet addictologue, mais seulement en 2015, donc il s'est passé quand même 3 ans où ça a été n'importe quoi. Et cet addictologue, il m'a dit « Non, mais il y a une maladie psychiatrique là. » Et lui m'a enfin dirigée vers mon psychiatre, qui est encore le même actuellement. Et pareil, j'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est parce que j'ai eu une lettre de recommandation de l'addictologue que j'ai pu, entre guillemets, de l'attendre. Et c'est ça qui est très dur aujourd'hui aussi en santé mentale, c'est que les bons psychiatres, entre guillemets, si on n'a pas soit de recommandation, soit d'orientation par un autre médecin, par une structure, et ben on les atteint pas. Et c'est un désastre pour ceux qui peuvent pas les atteindre, en fait.
L'errance, elle commence quand ça devient pathologique. Je ne le sais pas, mais aujourd'hui, je peux à peu près le dater. C'est que je commence à avoir des comportements que je ne maîtrise plus du tout. J'avais plus de petite amie, elle était partie, ou j'étais parti, parce que en crise maniaque, on est tellement fort qu'elles ne sont plus assez bien pour nous. Voilà, donc on peut partir. Pareil pour les métiers. Souvent, je démissionnais, puisque le métier n'est plus assez bien pour moi. Donc, plus de métier, plus de relations amoureuses, plus d'argent, mais énormément de dettes. 4 fois, je me suis retrouvé sans rien. on commence à plus être grand-chose. J'en pouvais plus, j'allais pas recommencer. Alors je suis rentré à Nantes, habité chez mes parents, parce que j'avais nulle part d'autre où aller. Eux m'ouvraient encore leurs portes, et parfois on leur conseillait de ne pas m'ouvrir la porte d'ailleurs, parce que ça c'était peut-être pas bien pour que j'aille mieux. J'avais fait toutes ces dépressions, toutes ces crises, j'en pouvais plus quoi. Et voilà, et je suis reparti là à 36 ans, et j'ai été diagnostiqué.
Et après, quand j'ai une trentaine d'années, je revois une autre psychiatre, qui je me sens plutôt mieux. Donc là, je me dis, ah, en fait, il y a peut-être aussi d'autres façons de soigner. Et elle me dit aussi qu'elle trouve que j'ai un traitement de cheval, qu'elle ne comprend pas du tout. Du coup, on revoit un petit peu le traitement à la baisse. Et surtout, ça s'est accompagné d'une thérapie avec une psychologue, et ça s'est accompagné d'un atelier d'écriture au CATTP. Là, je découvre un peu le GEM, et ça s'est accompagné de plein d'autres choses, d'autres ateliers en autogestion, et un petit peu aussi de faire des allers-retours entre l'institution psy et d'autres lieux.
Mon psychiatre, qui est encore le même actuellement, ça a été la rencontre, en fait, où lui, assez rapidement, mais il ne me l'a pas dit tout de suite, il a suspecté la bipolarité, mais il a été professionnel, c'est-à-dire qu'il a attendu que je fasse différentes crises, ce qu'on appelle le triangle, en fait, de passer d'abord par une crise dépressive profonde, ensuite un épisode hypomaniaque, et tout de suite une rechute en dépression. C'est là qu'on peut vraiment diagnostiquer la maladie. Fin 2017, j'ai été diagnostiquée et mise enfin sous le bon médicament qui est assez connu pour la bipolarité, qui est le lithium. Ah, le ouf de soulagement. J'étais pas folle, il y avait une maladie, et en plus, voilà, biologique, donc ça se passait dans mon cerveau, et il fallait juste qu'on trouve le médicament pour réguler ça dans mon cerveau, pour que ça aille mieux. On guérit jamais de la bipolarité. Mais au moins, on allait pouvoir m'aider et on savait exactement ce que j'avais et comment m'orienter, en fait. J'ai eu l'impression de me découvrir à ce moment-là et de me dire, OK, Chloé, c'est elle, en fait. C'est pas ses dérives. J'étais une personne qui était abîmée. Il fallait juste que je retrouve les morceaux pour reconstruire un puzzle à peu près correct et avancer et enfin profiter de la vie d'une manière différente.
Ce diagnostic a été un soulagement. Je sais que ça dépend beaucoup des gens, mais si on ne m'avait pas diagnostiqué, je pense que je me serais suicidé dans l'année ou les deux ans. J'étais au bout du rouleau quand je suis rentré à Nantes. Donc ça fait aussi que quand un type, qui n'avait pas de blouse blanche, mais un type qu'on appelle un psychiatre, m'a regardé et m'a dit « bon, ben, moi, je pense que je sais ce dont vous souffrez. On appelle ça la maladie bipolaire et on va faire équipe pour que vous alliez mieux. Oh. » Moi, j'avais envie de lui sauter au cou. Enfin, c'est pas vrai, mais si. Quand je suis sorti, il m'a dit « on va faire équipe. On va être deux devant ce monde d'incompréhension qui est le mien. »
On est beaucoup dans une ère du diagnostic à tout prix, et pourquoi pas, mais j'ai pas envie non plus de rentrer tout le temps dans des cases. Si ça peut aider, tant mieux. Enfin, vraiment, chacun l'aborde comme il peut, il veut. Le premier psychiatre, il me disait, mais vous inquiétez pas, vous aurez une vie normale. Et je trouve cette phrase vraiment atroce. Enfin, normaliser à tout prix, ça me paraît aussi un peu flippant.
Peu importe le mot, hein. Faut pas rester scotché sur ce mot, surtout qu'on est tous différents. Enfin, moi, je ne connais pas une personne souffrant de troubles bipolaires qui a exactement les mêmes symptômes que moi. Hein.
J'ai l'impression qu'on en parle un tout petit peu plus, mais je ne sais pas si on en parle toujours bien.
C'est encore tabou. Et puis, il y a encore beaucoup trop de raccourcis qui sont faits. Hein. Les gens ne sont pas renseignés, il y a des amalgames, et puis ça fait peur. Il y a autant cette partie de la population qui va être complètement terrorisée en se disant « c'est de la folie, il ne faut pas qu'on les approche, c'est contagieux ». Et puis, il y a cette autre partie qui, moi, m'agace presque encore plus. C'est les gens qui veulent... En plus, le mot bipolaire, il est utilisé à tort et à travers. Pour moi, c'est un abus de langage. Ah, je ne sais pas si je vais choisir un sandwich ou un hamburger. Je suis trop bipolaire. Alors ça, moi, les gens, j'ai envie de les claquer. Ou même les nanas qui disent « Ah, j'ai mes règles. Quand j'ai mes règles, je suis bipolaire. » Moi, c'est des choses qui me fatiguent, hein, parce qu'on ne dit pas à quelqu'un qui est chauve qu'il est cancéreux. Moi, l'abus de langage, c'est quelque chose sur lequel j'aurais envie de militer presque, tellement ça m'agace, parce qu'on ne sait pas à quel point ça peut heurter les gens comme nous, qui nous battons, qui avons des traitements qui, accessoirement, nous foutent en l'air. Hein. Moi, j'ai choisi le lithium, mais quand j'ai choisi le lithium, pour ma stabilité, en gros, on m'a dit de signer. Ça va vous flinguer les reins et vous flinguer la thyroïde. Moi, j'ai plus de thyroïde. Hein. 2 ans après mon traitement au lithium, j'ai fait une hypothyroïdie qui fait que, grosso modo, de la thyroïde, elle est morte. Maintenant, ça va être mes reins. Je commence à avoir des soucis de reins. Donc, bref, tout ça pour revenir à ces gens qui sont dans, sous-estimation de ces maladies ou alors qui disent « Ouais, la bipolarité, c'est à la mode. » Non, c'est une vraie maladie, en fait, pour lesquels on est traité, pour lesquels on a des ennuis de santé et pour lesquels on se bat au quotidien, quoi, dans tout. Moi, j'ai des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire. Faut que j'écrive tout. On se rend pas compte de tous les à côté de la maladie, au-delà des crises, parce que voilà, on va dire, bipolaire, il est soit up, il est soit down. C'est pas que ça, en fait. C'est tout ce qui va à côté. Il n'y a pas assez de renseignements. Il devrait y avoir des campagnes, en fait, pour informer, mais pas que sur la bipolarité, encore une fois. Sur la santé mentale, on devrait informer les gens, quoi.
Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire qu'on a quand même des sacrées ressources quand on dépasse tout ça et qu'il y a aussi des proches, il y a aussi des soignants à certains moments. Moi, je repense à des infirmières qui ont été vraiment super. Il y a eu certaines personnes assez ressources.
L'important, c'est pas l'explication, c'est de bien vivre avec.
Se met au travail à tout prix, à quel prix ?